Émission spéciale Économie circulaire avec Galtier Valuation, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale proposée par Galtier Valuation du groupe Galtier. On va s'intéresser aujourd'hui à l'économie circulaire. Économie circulaire en ce qui concerne le bâtiment. Le secteur du BTP, vous le savez peut-être, produit chaque année 42 millions de tonnes de déchets issus de la démolition, de la déconstruction. Et c'est 30% des déchets générés en France. Si aujourd'hui une grande partie de ces déchets sont recyclés, moins de 1% sont réemployés. Est-ce qu'on peut mieux faire? Comment? C'est la raison, on va le voir, pourquoi s'est créée une initiative, le booster du réemploi. Au-delà de cette initiative, quels sont les enjeux, les freins pour accélérer? Quid de la data? Que faire des nouvelles réglementations? Est-ce qu'elles vont accélérer ce process? C'est l'ensemble de ces questions à laquelle nos invités du jour vont répondre. Je suis ravi d'accueillir Coralie Couvret. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Vous êtes directrice du pôle immobilier, expertise Gatier, donc du groupe Gatier Valuation. Voilà, du groupe Gatier. Baya de Riche, même groupe, mais responsable des études immobilières, cellule études et recherches. Bonjour Baya.
Bonjour.
On accueille également Laetitia Georges. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Vous êtes présidente fondatrice de Contrast. On va découvrir Contrast dans quelques instants après un passé chez Groupama. Et enfin, Zélie Perrin. Bonjour Zélie.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet du booster de réemploi. Je viens de le présenter en quelques mots, mais on va bien sûr largement s'y intéresser. La société A4MT. Et je vous laisse présenter un 4MT, Action for Market Transformation.
Tout à fait.
Tout un programme, effectivement. Alors, on ouvre le débat avec vous, Baya. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'économie circulaire, en tout cas de plus en plus, dans nos vies de tous les jours. On sait qu'on n'a qu'une seule planète, qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Pourquoi vous avez voulu, justement, en cette rentrée, commencer avec ce sujet sur l'économie circulaire dans le bâtiment?
Grand sujet, et puis on a voulu démarrer par cette thématique parce que il y a un besoin urgent de prendre conscience de notre planète, de la sauver, et puis quand on sauve la planète, on sauve les êtres humains aussi, et de dire, nous, acteurs du marché immobilier, qui sommes souvent interrogés sur... Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, qui sommes souvent interrogés sur ce sujet en mettant en parallèle quid du combien ça coûte, comment on met ça en place. On s'est associé avec différents groupes de travail pour aborder ce point, entre autres le booster, mais aussi Circolab et d'autres groupes de travail auxquels on participe. Donc la question est très 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 vaste. Quand on pose cette question, il y a plusieurs sujets qui arrivent en place. On voit bien que le marché est très sensible à cette demande, mais quels sont les outils, quelles sont les certifications, quelles sont les données qu'on peut récupérer pour intégrer ces paramètres dans les conclusions d'expertise et des valeurs.
Quel est l'enjeu, Coralie Couvret, pour Expertise Galtier, de faire un focus justement sur ces sujets? Est-ce que comment ça sert finalement aussi votre groupe?
Ça sert notre groupe et surtout ça sert nos clients, puisque les questions arrivent depuis quelques mois, quelques années, et donc on peut les accompagner en leur certifiant que nous sommes participants actifs à tous ces groupes de travail, à toutes ces réflexions, même si à notre niveau nous ne savons pas encore comment valoriser tout ça, mais on va trouver des solutions. On travaille sur les méthodes et surtout sur les paramètres à prendre en compte dans nos valorisations en fonction de l'avancée des groupes de travail. Et donc, notre but est aussi d'accompagner nos clients, les investisseurs institutionnels, dont c'est le métier, qui connaissent parfaitement l'immobilier, mais aussi les PME, PMI, qui sont l'ADN de notre groupe. Et là, ces personnes-là, ces sociétés, l'immobilier, ce n'est pas leur métier, mais il faut les accompagner, il faut les mettre dans le mouvement. Et donc, nous sommes tout à fait là, présents, et on les conseille sur ces sujets.
Vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience généralisée, que, comme on le disait tout à l'heure, il faut aujourd'hui changer nos méthodes, évoluer, se préoccuper davantage de ces sujets qui, peut-être il y a encore 10 ans, n'existaient pas du tout?
La prise de conscience, elle est réelle et elle est plus rapide que les sujets qu'on a pu connaître avant, je pense, sur la valeur verte. Comme disait Laetitia, si on travaille tous ensemble, ça va beaucoup plus vite et on arrive à mutualiser et à avoir des réflexions et des débats qui sont très intéressants. Alors, dans ces sujets-là, il y a toujours des gens qui se mettent un peu en avant en faisant un peu du marketing, hein, mais ça, on les connaît. Mais de toute manière, aujourd'hui, c'est une réalité. Ça avance. Depuis 10 ans, vous voyez des nouveaux métiers qui arrivent. RSE, tout ça, ça n'existait pas. Et il y a vraiment une accélération, je trouve, depuis 10 ans sur ces sujets qui vont plus vite. Alors, il est vrai que nos outils de communication nous facilitent les choses. Et malgré la période que nous avons connue de la Covid, les groupes de travail ont continué, on a continué à avancer. Donc, il y a une vraie réalité, une prise de conscience. Et maintenant, il faut mettre en action. Et c'est en route.
Et c'est assez enthousiasmant aussi. Alors justement, on a une experte sur le terrain, Laetitia Georges. Je l'ai dit, vous êtes présidente fondatrice de Contraste. Et vous, justement, hein, vous étiez chez Groupama, vous allez nous raconter. Et vous êtes vraiment jetée dans cette aventure, je dirais, à 100%, voire à 200%.
Voilà, quand on a la responsabilité de projeter sur 15 ans des cash flows,
Racontez-nous, qu'est-ce que vous faisiez avant?
J'étais directrice de l'immobilier tertiaire chez Groupama.
Oui.
Et après, je suis partie chez nous, de la filiale de la famille Muliez en immobilier, et j'en suis partie au mois d'août, justement parce que j'ai vraiment envie de creuser le sujet dans le détail par rapport à la valeur de demain et une responsabilité aussi par rapport à cette valeur. Aujourd'hui, comment projeter des cash flows comme on a toujours fait depuis... c'était début des cash flows, c'était en 97-98. J'étais chez Arthur Andersen, on imaginait déjà projeter les cash flows, c'était les DCF à l'époque. Et aujourd'hui, comment faire sans intégrer Dame Nature et Dame Planète dans ces cash flows?
Alors attendez, parce que tout le monde n'est pas analyste financier autour de la table, on parle tout de suite cash flow, discount cash flow, etc. C'est un petit peu technique, ça veut dire quoi? C'était dans les projets, lorsqu'on construit un bâtiment, se dire qu'est-ce que ça va rapporter ou comment gérer la trésorerie finalement?
Alors, c'est un peu plus que ça. C'est pas que la trésorerie. C'est un bâtiment. On peut imaginer que la valeur d'un bâtiment, on peut la regarder différemment. D'ailleurs, on s'amuse par rapport à ça. Soit on regarde par rapport à ses concurrents, soit on regarde par rapport au rendement qu'il va apporter, soit on projette toutes les ressources et toutes les charges qu'on va avoir dans le futur. Si on regarde aujourd'hui l'impact du carbone dans un bâtiment, bien sûr, on parle de taxe carbone ou... On va peut-être dire octroi de carbone, parce que quelque part, tout ce qu'on voit autour de nous, tous les matériaux, tous les biens, font participer un peu à un extrait de la planète.
Bien sûr.
Donc, on a pris toutes ces ressources sur la planète sans payer, quelque part, ces charges. Donc, à un moment donné, il va y avoir, on voit bien aujourd'hui, l'augmentation assez importante du coût des matériaux, notamment des métaux. Donc, aujourd'hui, les entreprises, il y en a un certain nombre qui n'arrivent plus à s'approvisionner. Donc la ressource naturelle, les ressources métaux, l'énergie aussi, tout est ressource en fait. Donc si on regarde le monde et l'immobilier sous cet angle-là, y compris pour une durabilité, je sais pas, de 10, 15, 20 ans, on ne sait pas quand ça arrivera, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir appréhender différemment la ville, les choses, y compris l'immobilier.
Oui, mais ça veut dire une toute autre façon aussi de comptabiliser aujourd'hui un bâtiment.
Comptabiliser, alors il y a la vétusté. Il y a l'amortissement, mais on peut aussi regarder la durabilité. Donc, bien sûr, dans le cadre de la 4MT, des travaux qui ont été menés, Zélie présentera, on a été chercher chaque DG de chaque entreprise, tant les maîtres d'ouvrage, mais aussi les bureaux de contrôle, les assureurs, pour dire, voilà, il y a un sujet, il y a une problématique, il faut qu'on la creuse ensemble à un niveau de direction générale et pas uniquement les directeurs RSE qui font tout ce qu'ils peuvent, mais en fait, tout le monde fait de la RSE aujourd'hui. Mmh. Voilà.
Effectivement, la RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est aussi une façon, voilà, un peu tendance. Hein, je le disais, il y a une prise de conscience. Il y en a un peu qui surfent sur la vague, un petit peu de greenwashing, et puis d'autres qui sont convaincus. On sent vos convictions, Laetitia, et vous avez mis ça en application en fondant dans Contraste. Zélie Perrin, on va parler du vif du sujet, le booster à du réemploi. Parlez-nous de cette initiative issue donc de la société A4MT.
Alors, issu plutôt de la pensée des équipes de chez Groupama Immobilier dont Laetitia faisait partie, qui ont été à l'initiative effectivement de cette démarche et qui ont ensuite délégué le pilotage de la démarche à la société A4MT. Donc le booster du réemploi, c'est une coalition de maîtres d'ouvrage, à la fois des promoteurs, des investisseurs, des utilisateurs, on espère bientôt des aménageurs, des asset managers, donc vraiment toute la chaîne de valeur, qui ont créé cette coalition. Qui se sont engagés à agir et à intégrer, à prescrire des matériaux de réemploi sur leurs projets. Donc aujourd'hui, ils sont 38, on espère bientôt plus.
C'est des grands noms, on dit, bon, c'est quand même pas
c'est,
la.
Alors, c'est tous les. Non, c'est tous les grands noms. Alors aujourd'hui, des maîtrises d'ouvrage privés, bientôt, on espère élargir le cercle. Groupama Immobilier en fait partie, mais il y en a plein d'autres.
Sur côté ICAD, CSTB, entreprise d'ingénieur Artelia, etc.
Alors ça, c'est aussi tous les autres acteurs avec qui on travaille, puisqu'effectivement, ces maîtres d'ouvrage, ils sont tout en haut de la chaîne de valeur financière, parce que c'est eux les clients, c'est eux qui payent, c'est eux qui prennent la décision au départ. Mais ensuite, il y a tout un tas d'autres acteurs sur qui ça ruisselle, et c'est le cas effectivement des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, mais aussi des assureurs et puis des fournisseurs de matériaux et des entreprises de construction. Donc il faut vraiment, c'est une coalition très large qui recouvre toute la chaîne de valeur d'un projet immobilier, d'un projet de construction. Et c'est une force collective, c'est un programme d'action collectif dans lequel on s'engage, dans lequel on fait des tests. Donc c'est du test and learn, c'est de l'opérationnel. Il y a aujourd'hui 150 projets par an sur lesquels les maîtres d'ouvrage s'engagent à prescrire des matériaux de réemploi et à tester le réemploi en construction ou en réhabilitation.
C'est quoi un matériau de réemploi ?
Alors, un matériau de réemploi, c'est un matériau qui a déjà eu une première vie sur un premier projet. Il a été produit, puis il a été posé, voilà, par exemple, une fenêtre, par exemple, une cloison, une moquette.
Une porte.
Une porte, voilà, des matériaux très variés. Et puis, un jour, il y a une déconstruction ou une réhabilitation. Et au lieu de tout simplement démolir et envoyer à la benne ou même au recyclage, on va le déposer, on va le déconstruire proprement. Et on va peut-être le nettoyer, le reconditionner, le réparer si besoin. Et puis, on va l'emmener ailleurs, sur un autre projet, sur un autre bâtiment. Et on va le reposer et lui donner une deuxième vie pour allonger sa durée de vie.
Ouais, on voit ces business models dans notre vie de tous les jours. Je pense au smartphone, par exemple. On a vu Flores d'entreprises qui font ça. Pour le bâtiment, ça n'existait pas ?
Alors, dans le bâtiment, il y avait déjà une démarche de déconstruction sélective, mais il y avait encore beaucoup de... un grand nombre de matériaux qui partaient plutôt au recyclage, ce qui est aussi vertueux, mais qui a quand même une consommation d'énergie assez importante. Le réemploi, c'est un sujet qui est assez récent. Ça fait quelques années, peut-être 5 ans, qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se créent, de plateformes qui se créent pour récupérer tous ces matériaux qui sont déconstruits proprement. Donc il y a un marché, on va dire, de l'offre de matériaux de réemploi qui s'est structuré sur ces dernières années avec des flux très importants, des gisements très importants. Mais ce qui a été mis en avant par la réflexion de Groupama Immobilier, c'est que en face de cette offre, il n'y avait pas la demande qui allait derrière. Et sans demande, ces matériaux, ils sont sur un marché sur lequel ils n'ont pas d'exutoire, et donc ça peut pas fonctionner, ça peut pas se massifier. Donc l'idée, c'était vraiment de donner la main aux maîtres d'ouvrage en tant que prescripteurs pour qu'ils prescrivent et qu'ils achètent ces matériaux qui sont sur le marché et qu'ils les mettent en œuvre. Et ça, c'est uniquement avec la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché que ça peut fonctionner.
Et oui, encore fallait-il qu'il y ait finalement cette place de marché qui existe, hein, c'est-à-dire que savoir, je ne sais pas, peut-être qu'il y a 50 portes disponibles ou 30 fenêtres qu'on peut utiliser pratiquement clé en main et avec, j'imagine, un canevas, un métrage, il faut que ça soit aussi standardisé.
Alors, c'est justement tout l'enjeu du réemploi, c'est que ça demande une transformation des mentalités et des habitudes et des pratiques, puisqu'effectivement, quand on achète et qu'on met en place du réemploi, c'est pas comme quand on achète en neuf où on peut aller regarder sur un catalogue et puis acheter 150 portes, les mêmes, celles qu'on a bien choisies avec la couleur qu'on connaît, etc. Donc il faut accepter de regarder un peu ça différemment et de concevoir avec l'existant. Donc ça, c'est le travail qu'on fait aussi de sensibilisation auprès des maîtres d'ouvrage, auprès des architectes, auprès des bureaux d'études, pour leur dire, voilà, vous avez cette ressource qui est disponible sur un marché du réemploi. Essayez de concevoir et de penser vos projets et vos bâtiments avec l'existant plutôt qu'avec ce que vous connaissez et que vous allez acheter, que vous allez faire produire.
Ouais, sacrée révolution, Laetitia Georgin. C'est vrai qu'on imagine, voilà, celui qui commence maître d'ouvrage, il se dit, voilà, j'ai telle idée en tête ou je veux faire tels travaux. On va pas avoir le réflexe. Enfin, il faut peut-être l'avoir, justement, de se dire, mais il y a des choses qui existent, qui sont à disposition, qui sont peut-être moins chères, du coup.
Alors, ce qui est déjà important, c'est qu'il faut redesigner le design. Le beau d'hier, qui était une standardisation, voire une internationalisation, en fait, devient beaucoup plus local. C'est-à-dire que s'il y a une ressource, on peut redesigner une ressource, on peut repenser le bâtiment en fonction des ressources qu'on trouve entre le moment où on imagine un projet et le moment où on termine le projet, ce qui est une période de 3 ans. Là, ce qu'on a imaginé, justement, c'est si moi, je cherche 6 portes dans 6 mois, je le dis, donc j'ai beaucoup plus de chances de trouver la contrepartie. Par rapport à ça, la plateforme Looping, qui était financée par Groupama Immobilier, c'est justement de mettre en lumière les recherches. Un grand travail a été fait par toute l'équipe de la 4MT. Ça a été de créer et de mettre en place des cahiers des charges, des groupes de travail pour des cahiers des charges chez CTP Technique, justement pour permettre à toutes ces ressources par typologie de pouvoir être
être prescrites de manière simplifiée et sécurisée. C'est tout l'enjeu, enfin c'est un des grands enjeux du réemploi, c'est que comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre et prescrire des matériaux qui ont déjà une première vie, tout en s'assurant qu'ils remplissent bien les performances techniques attendues. Ça reste encore une peur très présente chez tous les acteurs avec qui on travaille. C'est comment est-ce que je m'assure que le matériau que je vais mettre en place, il a bien, il est aussi sûr, il est aussi fiable qu'un matériau neuf. Donc pour ça, il y a un travail à faire effectivement d'analyse et de réflexion qu'on mène avec les acteurs du contrôle technique, avec les assureurs, pour regarder un peu tous ces éléments-là.
En même temps, la meilleure garantie, c'est que ce matériau a déjà été utilisé, donc quelque part, on sait qu'il fonctionne.
Oui.
Donc ça dépend aussi de la qualité des matériaux, c'est-à-dire il y a des matériaux inertes, non inertes, qu'on peut détacher facilement, des matériaux qui sont beaucoup plus dans la structure des bâtiments, attachés au bâtiment, donc il y a tout un travail. Donc là on est vraiment dans la saison 1, on entame la saison 2, avec plein de belles choses qui ont été réalisées depuis un an. Aujourd'hui les gens parlent de réemploi. Et on commence vraiment à mesurer l'impact tant sur le carbone, l'eau et le volume de déchets.
Alors, on va y revenir. Effectivement, saison 2, c'est intéressant puisqu'il y a eu finalement preuve de concept. Si on va sur looping.imo, effectivement, la plateforme, la place de marché, on voit ensemble, réduisons l'impact carbone du secteur du bâtiment. Effectivement, l'illustration, c'est, je le dis pour ceux qui nous écoutent, hein, effectivement, on voit tout un tas de fenêtres, d'occasion, de briques, de moellons, de bois, etc., qui sont prêts à l'usage. C'est vrai que finalement, l'idée, c'est de rendre visible et prévisible cette demande des matériaux de réemploi qui peut-être existait auparavant, mais il n'y avait pas encore cette disponibilité, finalement, la rencontre de l'offre et de la demande. Coralie, c'est assez passionnant comme initiative.
C'est passionnant, et puis à la fois, dans certaines régions, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, moi, je suis de la Sologne. Les maisons, on défaisait les maisons, on utilisait les briques, on les nettoyait, on reconstruisait avec la brique qui était faite à côté. On cassait pas tout de suite. Donc, il faut.
On jetait pas, quoi.
Ben, on jetait pas. La matière, elle était là, elle était à côté, elle était produite à côté. Alors, il y avait une main d'œuvre à l'époque, effectivement, que l'on pouvait, qui était là, qui était présente pour déconstruire proprement. Aujourd'hui, dernièrement, c'était on détruit parce qu'il faut aller plus vite et tout, et la main-d'œuvre n'est pas là. Mais cette main-d'œuvre, il faut accepter de la repayer, de reformer des gens qui savent déconstruire proprement. Mais dans toutes les régions où il y a de la pierre, où il y a du tuffeau, on ne cassait pas, on déconstruisait, on réutilisait les matériaux, la terre cuite, les tuiles. Je peux vous en parler. On était dans le bâtiment dans ma famille et on réutilisait les tuiles, on déconstruisait une maison, on récupérait les tuiles, on les remettait. Dans des constructions de rénovation.
Bon,
donc,
la famille de Coralie avait déjà fait le booster de réemploi.
Non, mais
on n'a pas inventé.
C'est du bon sens qu'on a perdu et qu'il faut réutiliser avec la matière locale. On construit localement avec le bois, avec la brique. Et quelque part, on se dit juste remettre du bon sens et à la grande échelle, en fait.
Alors, c'est très intéressant. J'ai une question quand même économique. Je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, pour notre petit électroménager, souvent en plastique, etc., même si c'est aussi des matériaux peut-être un peu moins nobles que la brique ou la tuile,
tout matériau
le bois.
Est noble, en fait.
Oui, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne va pas faire réparer son grille-pain ou son aspirateur. On en achète un nouveau parce que c'est finalement presque moins cher. Donc, ma question, elle est triviale, mais est-ce que, pour les promoteurs, etc., est-ce que cette démarche, on la comprend dans son bon sentiment et son idéologie, est-ce que ça va être moins cher, in fine, ou est-ce que finalement, sur les coûts, est-ce qu'on va y gagner? Alors, je m'adresse bien à la financière, que vous êtes, Laetitia Georges.
Ce qui est important, c'est forcément, on voit qu'il y a un sujet qu'on ne connaît pas, donc on veut vite mettre sur ce risque d'incompréhension ou des difficultés à appréhender toute cette problématique, de mettre un pansement. Mais dans la réalité, il va y avoir plusieurs façons, en fait. On voit bien la réglementation. Aujourd'hui, la RE 2020, alors, rapidement, avant, on était dans des réglementations thermiques du bâtiment. Donc, on regardait beaucoup ce qui se passait sur l'énergie.
Donc, on précise, hein, pour ceux qui nous rejoignent, RT 2012, on est passé, donc réglementation thermique, on est passé de beaucoup plus large, RE 2020.
Qui intègre le carbone, qui a bien sûr l'énergie, mais aussi le carbone. Ce qui fait que demain, si sur 200 pays dans le monde, il y en a à peu près 60 dans lesquels il y a des transactions sur un marché industriel sur le carbone, qui est estimé aujourd'hui à la tonne à peu près à 50 euros par tonne. Mmh. Donc ça dépend des marchés, ça dépend de pas mal de choses. Aujourd'hui, si cette taxation ou cette charge vient s'intègre dans le marché de l'immobilier, et bon, ben, les calculs vont être rapidement évidents, en fait. C'est-à-dire que toute économie de carbone aura directement un impact sur les flux de carbone entrant et sortant par rapport à votre bâtiment ou votre projet. Mmh. Et ensuite, la RE 2020 met vraiment en avant, ce qui est très bien, c'est que la RE 2020 met vraiment en avant le réemploi, c'est-à-dire que tout matériau de réemploi est comptabilisé à zéro sur l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas le déplacement des matériaux.
On se dit que c'est déjà produit, du coup, qu'il n'y a pas de fabrication de carbone.
Et puis on met en avant la ressource plutôt que de dire oui, parce que souvent on nous réfute, oui, mais il y a le transport. Oui, d'accord, il y a le transport, mais un matériau neuf, il y a aussi le transport. Ouais. Donc plutôt que de rajouter des contraintes, essayons juste de dire, bon, voilà, cette unité-là, en tout cas, neuf ou réemployé, quel est l'impact du carbone évité et d'eau aussi.
D'accord. Du coup, aujourd'hui, peut-être justement le carbone, l'eau,
les métaux.
C'est pas assez peut-être valorisé. Si demain on commence à le prendre en compte, on va voir qu'effectivement l'équation économique, elle est finalement entre guillemets rentable.
C'est évident. Alors, on ne sait pas quand ça, ce que ça arrivera dans 5 ans, 10 ans, mais c'est le chemin qu'il faut prendre et on n'a pas d'autre choix par rapport aux problématiques parce qu'on n'intègre pas les externalités, c'est-à-dire les inondations,
la sécheresse
les risques climatiques qui ne peuvent plus être assurés aujourd'hui. Donc ça, c'est un coût. C'est un coût aussi social parce que incinérer... je sais pas, une tonne de déchets, ben c'est un emploi d'une personne versus 700 sur le marché du réemploi. Mmh. Donc il y a aussi tout un contexte social aussi. Donc l'appréhension de tout ce qu'on peut faire par rapport au réemploi, notamment les filières d'apprentissage, seront aussi un autre axe pour éviter aussi, une nouvelle crise de gilets jaunes aussi, pourquoi pas.
Ah oui, il y a un aspect évidemment social. Enfin, tout est lié, on le voit bien. Baya Derich.
Oui, je voulais juste compléter avec un élément, effectivement, à travers les différents groupes de travaux auxquels on participe. On voit bien aussi une des problématiques, c'est la disponibilité des matériaux. Je veux que parce que là, on parle de grands immeubles qui doivent être construits ou fortement réhabilités. Une des problématiques, c'est est-ce que je suis sûre que les matériaux dont j'ai besoin, qui sont indispensables sur un créneau timing bien précis, ils seront disponibles ou pas. Donc là, c'est un des freins. Aujourd'hui, nous, dans ce qu'on relève, on travaille plutôt en circuit fermé, c'est-à-dire si je prends du Bouygues ou ou d'autres grands constructeurs Vinci, eux, ils le font déjà, le booster du réemploi. Mmh. C'est-à-dire parce que c'est la maîtrise de ce calendrier qui est un peu, qui n'est pas encore au point aujourd'hui. Et aussi, il y a la banque de données des matériaux. Si on revient au travail de l'expert, quand lui, il va expertiser son bâtiment, déjà, il faut qu'il puisse prendre la dimension de la déconstruction. Voilà, j'ai toujours du mal à dire ce mot, du bâtiment. Donc, pour qu'il soit facilement déconstructible, il faut qu'il soit construit d'une certaine façon. Mmh. Donc, ce paramètre, comment il est pris en compte? Ensuite, c'est toute la chaîne. Partons du postulat que les matériaux seront disponibles. Mais quid de la data, de la banque de données? Combien ça coûte? On voit bien qu'il y a des fluctuation des coûts des matériaux. Donc il y a tous ces sujets-là en parallèle qui doivent être bien posés et qui doivent être mis en place et proposés par une structure externe. Et de dire, le marché s'ouvre. L'idée, c'est quoi aujourd'hui ? C'est dire, on sait faire, comme le disait Coralie, depuis très longtemps, on réutilisait. Mais parce que je réutilisais, parce que j'avais connaissance qu'un tel allait déconstruire, j'allais récupérer le matériau. Et donc là, l'idée, c'est de ouvrir ce marché qui existe, qui est en place. On le voit, hein, lorsqu'on interroge des personnes qui le mettent cet outil. La plateforme que tu évoques, Laetitia, combien de gens la connaissent ? Sur le marché,
on la teste uniquement avec les boosters. Elle se met en place petit à petit, donc elle va être ouverte certainement au marché sûrement en 2022.
Ouais. Donc il
y a aujourd'hui il y a eu 300 demandes en fait, déclarations de recherche.
Oui.
Parce qu'en fait le diagnostic ressources dans un bâtiment était obligatoire. C'est-à-dire que quand je fais des travaux, je dois faire un diagnostic ressources, toutes les ressources qu'on arrive à sortir. Donc ça, c'est facile, tout le monde le fait à peu près. Mais le courage n'est pas ça. Le courage, c'est de réintégrer des matériaux de réemploi dans son projet. Mmh. Et entre bon, la RE 2020 ou le label bas carbone, où il va y avoir des compensations justement sur le carbone évité. Donc ça, c'est une nouvelle réglementation qui vient d'être... voté là récemment, donc ça va petit à petit changer ce regard. Voilà. Ce qui est très compliqué dans le carbone, c'est qu'en fait on n'arrive pas à savoir ce qu'on fait parce que c'est quelque chose d'invisible. Et c'est intéressant de toujours le mettre à côté de l'eau, parce que l'eau au moins on arrive plus à le sentir. Et petit à petit, ben de s'éduquer ensemble, de se cultiver.
Ouais.
Ce qu'on sait, c'est qu'on sait pas, mais que petit à petit on va savoir davantage pour justement appréhender et avoir des éléments tangibles pour être un peu plus respectueux en fait de ces planètes.
Zélie Perrin, justement, vous parlez du booster comme un doutinque, hein, c'est-à-dire quelque chose où on ne fait pas que réfléchir, on fait les choses, on teste, hein, et puis on apprend, mais dans la pratique.
C'est ça, tout à fait. Bah, quand je disais 150 projets par an, aujourd'hui, il y en a environ 120 qui nous ont été fléchés par les différents maîtres d'ouvrage. Donc, c'est des projets concrets. Alors, certains encore dans des stades très amont de réflexion, conception, d'autres qui sont déjà beaucoup plus avancés avec ces demandes, effectivement, qui sont postées sur Looping, avec des premiers achats de matériaux, avec des premiers projets qui sont en phase de travaux, sur lesquels on voit concrètement des matériaux de réemploi, des transactions qui se font, des matériaux de réemploi qui sont intégrés et des équipes qui sont extrêmement motivés. On voit qu'il y a à la fois des maîtres d'ouvrage qui généralisent la prescription du réemploi sur toutes leurs opérations, c'est-à-dire que sur chaque nouvelle opération, ils vont avoir cette réflexion du réemploi, de qu'est-ce que je peux conserver, qu'est-ce que je peux acheter, comment est-ce que je peux intégrer cette problématique-là, et qui forment leurs équipes. Et ensuite, on a des équipes opérationnelles qui le mettent en place et qui vraiment... Enfin, c'est comme un jeu et ça, c'est quelque chose qui les motive énormément. Et ils vont faire l'expérience une première fois. Ils vont faire quelques, voilà, un ou deux, trois flux de réemploi pour tester un petit peu, pour commencer. Et ensuite, ils vont avoir envie de faire plus et d'aller plus loin. Et nous, on est là pour les accompagner dans cette démarche.
L'objectif à terme, vous avez un ordre d'idée ou...
Alors, le booster, pour revenir au départ, le booster du réemploi, quand il a été lancé, c'est un programme qui a été lancé sur une période de 3 ans. Donc, c'est... chaque année, chaque maître d'ouvrage va proposer 5 projets pendant 3 ans. C'est pour ça, d'où les 150 projets par an sur à peu près une trentaine de maîtres d'ouvrage. Et donc 450 projets en 3 ans. Donc l'idée, c'est d'accompagner 450 projets dans cette démarche de tester et de faire l'expérience de l'intégration de matériaux de réemploi. Et puis, évidemment, il y a une volonté de diminution des émissions. 20%, 30% de diminution des émissions carbone, c'est ça vraiment l'objectif des acteurs.
Oui, c'est noble. Coralie, que vous redédiez justement cette initiative, on ne peut que la saluer, bien sûr. Comment vous...
saluer et être dedans et aussi contribuer et s'associer. C'est pour ça que chez Galtier Evaluation, on a aussi un groupe de travail sur ces sujets. Même si on n'a pas toutes les réponses, il faut que les experts... intègre, soit formé par rapport à tous ces nouveaux enjeux, ces nouvelles réglementations, parce qu'on a un métier où il faut être formé constamment et comme on touche à beaucoup de choses, il faut assurer la formation des experts, mais aussi les paramètres à prendre en compte. On ne fait pas des cash flows tous les jours non plus, hein. Mais on discute avec les clients, quels sont leurs projets, les différenciés. On a aussi une équipe qui travaille sur des travaux et de l'environnement. Donc, il faut que toutes ces équipes dans le pôle immobilier soient tout à fait au fait de ce qui se passe et participer à ces actions. C'est pour ça qu'on y participe, et Baya est là pour nous dire il faut aller là, il faut aller là, il faut participer. Mmh. Et puis, on ne va pas changer les méthodes d'expertise, mais on va faire en sorte que ces nouveaux paramètres entrent en jeu, tout simplement. Avant, on déconstruisait, on faisait un bilan promoteur, on déconstruisait, c'était un coût. Aujourd'hui, c'est un coût, mais en face, c'est une recette. Donc, petit à petit, oui, je déconstruis, mais qu'est-ce que j'ai en face ? Et donc, on y arrive. Et je voulais vous rajouter, on parle d'immeubles. Dernièrement, on a fait une mission sur des containers. Mmh. Alors là, on s'est dit, bon, chez Galtier, on expertise tout, on sait faire. Et là, les containers, on s'est dit quand même. Bon, les ports, tout ça, on sait faire. Les containers, on a fait une mission sur des centaines de containers, parce que les containers, c'est pareil, ça a une vie, et au bout d'un moment, quand ça est passé en mer pendant un bout de temps, ça reste là sur les quais. C'est une catastrophe. Et en fait, on a fait une mission pour une personne qui rachète des containers et donne une deuxième vie à des containers qui sont soit dans votre jardin, bon, faut aimer, mais une fois que c'est pas en verre, ça peut être des cabanes de jardin, mais surtout des logements précaires. Et ça se monte très rapidement, c'est très confortable. Et ça s'emmène ailleurs. Donc il y a un coût de déplacement, mais ça permet de répondre à des demandes, comme on disait, en période d'inondation. Bah, grâce à ce réemploi des containers, on peut reloger les gens très rapidement et pas reconstruire. Et puis on les emmènera ailleurs après. Donc on est déjà sur certaines choses dans ce réemploi sans s'en rendre compte. Mais quand on dit oui, on le fait là, on le fait le smartphone. Vous parliez du grille-pain. Alors, oui. Le grille-pain, maintenant, j'ai vu ça l'autre jour. Il y a derrière recyclable ou pas recyclable, il y a une notation. Donc ça y est, ça rentre, mais il faut avancer, c'est dans les mentalités. Nous, en tant qu'experts, il faut accompagner et écouter ce qui se fait, accompagner et voir comment les paramètres seront pris en compte dans les valorisations. Évidemment, il va falloir les intégrer et de plus en plus.
Moi, j'ai un container, pas dans mon jardin, pas de jardin, mais juste au coin de ma rue, effectivement, et c'est pas une cabane pour les enfants, mais c'est là où ils rangent les jeux, donc c'est très coloré, c'est joli.
Non, mais, voilà, mais ça s'intègre bien, en vrai, tout cas, dans un paysage urbain. C'est un vrai réemploi.
Mais c'est vrai que réemploi... Oui, excusez-moi. Réemploi, on pense effectivement au changement d'usage des mètres carrés. Hein. On est exactement dans la même réflexion, dans la même dimension. Et c'est de dire comment cet espace, je vais le transformer et l'adapter à un nouveau besoin.
Et justement, on parlait, bon, containers, pas sûr qu'on habite demain dans des containers, je ne le souhaite pas.
Trompez-vous.
Certains,
oui, c'est vrai. Airbnb en Normandie, qui depuis un bon bout de temps, un architecte a fait ça, et on y est très très bien dedans.
Ah bon, et ok. Oui. Je dois bien dormir, c'est bien fermé.
Je donnerai l'adresse.
Avec plaisir. On parle beaucoup logement, effectivement, mais il y a aussi tous les bâtiments tertiaires. Avec ce décret tertiaire, il y a des riches qui arrivent. Hein, là, c'est-à-dire bureaux, hôpitaux, enseignements, etc. Là, il y a des centaines de milliers de mètres carrés. Et là aussi, on a la puissance publique qui doit à un moment s'emparer de tout ça.
Oui, le décret tertiaire, un grand sujet. Hein, la date en a été décalée. D'ailleurs, dans les groupes de travail, on travaille sur ce sujet avec IP2I, qui est l'ancien observatoire Apogée, qui a été remis au goût du jour, j'ai envie de dire, parce que les sujets varient. Et à travers ce groupe de travail, arrive beaucoup la question des charges. Qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui prennent une part assez importante et qui rentrent justement dans ce sujet de l'économie circulaire, de l'empreinte carbone, mais quid si je veux participer et améliorer mon résultat, comment je fais ? Donc il y a vraiment des grandes, grandes questions. Pareil, hein, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut y aller, mais c'est compliqué. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça va booster un peu tous les acteurs du marché immobilier et de dire va falloir prendre des mesures, des consommations, voir comment on peut améliorer sa consommation, son émission de gaz, de carbone. Mais ce sont des vrais sujets qui sont sur papier très bien, mais pour la mise en pratique, ça va être compliqué. Je vous parle pas des différents paramètres, de la compréhension aussi des décrets, et puis qui fait quoi ? C'est le bailleur, c'est l'utilisateur qui est responsable, qui paye. Donc on revient sur ces sujets qui, grâce aux décrets tertiaires, vont être pris en compte par les différents acteurs du marché immobilier.
Laetitia Georges, justement, sur ce décret tertiaire, l'enjeu, c'est aussi toute cette surface. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a beaucoup de choses à faire et ça dépend aussi de la maturité de certaines entreprises. Ce qui est important, c'est d'avoir l'information. Donc, quand j'étais chez Groupama Immobilier, on a été une des premières sociétés à être ISO 14001 pour justement intégrer tous ces paramètres environnementaux dans leur globalité à chaque pas. Et c'est vrai que CUBE, l'initiative qui a été lancée par l'IFPEB, l'Institut français de la performance de l'énergie, depuis 5-6 ans, même plus, c'était une compétition de diminution de consommation d'énergie dans les bâtiments. Et les résultats sont incroyables. On peut atteindre jusqu'à 20, 30, 35% d'économie d'énergie quand tout le monde s'y met, en fait. C'est pour ça qu'après, on a eu l'idée d'aller chercher ces mêmes acteurs pour lancer le booster. C'est-à-dire que quand on s'y met tous et que c'est comme une monnaie d'échange ou de plaisir au quotidien pour avancer collectivement sur un sujet, on peut aller très loin. Sur le parc d'Orange, c'était assez important, donc tant bien sûr sur le plan financier, mais sur le nombre de mètres carrés, sur l'impact que ça peut avoir sur les équipes, c'est un outil managérial. Donc là, le cube avait été lancé sur le scolaire. Donc vous imaginez plutôt que de dépenser l'énergie à rien, utilisons-nous plutôt pour créer d'autres choses pour les élèves tout en faisant des économies qui ne changent pas la vie, en fait. Pareil sur l'automobile, bon, ça c'est autre chose. Et là, il y a un cube national, lancement de cette compétition nationale qui sera lancé au 1er octobre, y compris sur un petit programme particulier pour la défense, de mettre en compétition toutes les tours de la défense justement pour la diminution de cette consommation d'énergie. Et donc, pour tous ceux qui sont à l'écoute ce matin, essayez. Les résultats sont, pas partagés, si ce n'est ceux qui sont, c'est surperforme leurs camarades, mais c'est un outil de transformation évident.
Et de management dans une entreprise qui crée un lien entre les gens de compétition, mais positif. Ça, c'est
d'émulation, finalement.
D'émulation, on a eu la même chose avec l'économie de papier, avec plein de choses. Et c'est vrai que c'est très bon au niveau management pour les équipes, en fait.
Ouais. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est vrai que c'est assez étonnant, mais souvent au niveau individuel, on fait ces économies où on est conscient, voilà, on éteint la lumière, on essaie de faire attention à l'eau, etc. Et puis on est toujours étonné, c'est vrai, dans certaines grandes entreprises, de voir des lumières allumées toute la nuit.
Collectivement, il faut le faire. Fermer la lumière si le voisin l'a pas fait, enfin, couper la clim, enfin, il y a plein de choses à faire au quotidien sans dépenser.
Gérer aussi l'immeuble, parce que souvent l'immeuble peut être climatisé la nuit alors que ça part dans du sens. Il y a tout un programme, il y a un accompagnement. Ça coûte pas très cher, c'est à peu près 1 ou 1500 euros. Donc c'est vraiment des outils pour avancer. Le départ de la compétition, c'est le 1er octobre.
C'est noté.
Voilà, il faut y être. Et en plus, vous êtes dans le décret tertiaire de ce fait. Vous marquez déjà 20% pour répondre au cadre réglementaire du décret tertiaire. C'est un premier pas facile à faire pour répondre à la réglementation. Alors,
Zélie Perrin, justement sur ce sujet décret tertiaire et tout, ça peut accélérer les choses pour le booster du réemploi.
Alors je pense que ça peut accélérer les choses au même titre que la RE 2020, ce qu'on disait, que le label bas carbone. Et ce dont on a parlé et les sujets sur lesquels on a travaillé notamment avec Galtier, c'est aussi sur la redéfinition de la relation entre le bailleur et le locataire. Et ça, l'économie circulaire, ça peut vraiment être quelque chose qui peut changer la donne. Et l'idée, c'est que bailleur et locataire, il faut qu'ils aient des échanges qui soient beaucoup plus fluide et surtout qui s'arrête pas simplement à on se parle quand il y a un problème, on se parle quand il y a une fuite d'eau, on se parle quand il y a
une opposition, on travaille ensemble.
L'idée, c'est de travailler ensemble et de réfléchir ensemble. Il y a un bien commun, c'est l'immeuble du propriétaire, c'est l'immeuble dans lequel le locataire habite. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour valoriser cette ressource et ces éléments qui sont présents? Et comment est-ce que dans la relation locative, on peut penser valeur des matériaux, qui est propriétaire, qui les garde, comment est-ce qu'on partage cette valeur? Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment évoluer. Et si on arrive à intégrer ça dans le bail, je pense que ça peut vraiment être une bonne manière de faire du réemploi aussi.
J'ai une question concernant justement cette initiative. Là, on parle franco-français. Est-ce qu'il y a d'autres boosters du réemploi ou d'autres initiatives à l'international?
Alors, au Portugal. Laetitia, alors. on est en pourparler justement pour travailler avec les équipes de Nude au Portugal pour initier le booster. Au Portugal, bon, voilà, c'est tout ça, c'est une histoire de confiance, en fait.
Il faut passer les frontières,
mais oui, c'est totalement...
Est-ce qu'il y a... je prolonge cette question.
Et aussi en Angleterre.
Voilà, parce qu'il
y a un programme aussi en Angleterre actuellement où on essaie, à côté de l'opération Cube, de faire la même chose sur le réemploi. Parce qu'en fait, c'est des programmes qui nécessitent un démarrage tranquille et petit à petit, le fait de grossir. Et... Célie peut-être en parler sur le fait d'intégrer des boosters régionaux.
Il y a deux logiques qui sont pas incompatibles pour la saison 2 du booster. La première, c'est l'internationalisation. Donc c'est l'idée d'essayer de dépasser les frontières. Et enfin, il y a des pays en Europe qui sont extrêmement avancés sur le sujet du réemploi. C'est le cas de la Belgique notamment. Enfin voilà, qui sont vraiment des pionniers dans ces sujets-là. Donc on a envie d'aller plus loin et de booster aussi avec eux. Donc ça, c'est la première logique. Et puis la deuxième logique, c'est plus une logique de territorialisation. C'est-à-dire que, enfin, on le disait déjà, Coralie le disait, le réemploi, c'est quelque chose qui est quand même très local. L'idée, c'est d'aller chercher la ressource au plus près des projets. Et donc, nous, ben voilà, on est basé à Paris, mais les projets qui nous sont fléchés par les maîtres d'ouvrage, ils sont partout en France parce que c'est des grandes entreprises qui ont des antennes locales. Et donc, l'idée, c'est d'aller recréer ces écosystèmes locaux un peu partout en région et trouver des relais locaux et des acteurs locaux qui ont la connaissance du territoire et la connaissance des projets de déconstruction, de reconstruction et qui peuvent créer ce cercle et cette boucle vertueuse par région. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de développer, d'où l'idée de travailler aussi avec les aménageurs et avec les puissances publiques et avec les collectivités qui ont une très bonne connaissance de leur territoire.
Sur le plan financier, en fait, le 50% du coût du réemploi est lié à la logistique et au stockage. Donc si on arrive à optimiser ces flux-là, d'un point A à un point B, on voit bien, on a fait une étude, on peut optimiser. Donc ça va être dans la saison 2 ou saison 3, parce qu'il y a plusieurs saisons, voire plusieurs séries.
Oui, on sent
maintenant
qu'on est au tout début d'une initiative, mais qui va et qui doit prendre de l'ampleur. Hein. Coralie Couvret, il nous reste quelques minutes donc pour synthétiser effectivement tout ce qu'on s'est dit. Donc cette initiative Booster, on l'a vu, on n'est qu'au début. On se reverra évidemment pour avoir les autres éléments. Pour vous, les prochains enjeux, ça va être quoi là sur cette fin d'année, l'année prochaine?
Sur l'économie circulaire?
Oui.
Mais de continuer de travailler avec toutes ces associations et ces belles initiatives.
De mieux faire connaître peut-être le dispositif.
De mieux faire connaître, de le faire partager, de conseiller nos clients, d'aussi faire entrer nos clients, certains qui ne sont pas du tout dans ces réflexions, de les amener par rapport à ça, par rapport aux décrets tertiaires pour ceux qui ne sont pas vraiment dans l'immobilier, aussi de leur faire prendre conscience de tout ça. Les grandes sociétés, ils sont déjà majoritairement, mais nous, on a un devoir aussi d'accompagner et de conseiller de nos clients et de les informer de ce qui se passe. Et on continuera bien évidemment, aussi bien en interne, hein, chez Galti, on a des groupes de travail, je le disais, sur ce sujet, que de participer activement à toutes ces réflexions de place qui sont passionnantes. Et la finalité, c'est notre planète. Et c'est nous aussi. Et puis, en passant par éduquer, entre guillemets, les clients.
Éduquer, bien communiquer.
C'est indispensable d'avoir justement des partenaires comme Galtier, parce que c'est des gens avec lesquels on peut construire, on peut projeter, on peut réfléchir, on peut modeler. En fait, ce qu'on sait, c'est que le modelage, on y est. On ne sait pas trop comment, mais ce n'est pas très important de savoir... Là, on va arriver. Ce qui est important, c'est de se mettre en route
dans le mouvement
et d'être agile par rapport à la vie. Vous voyez, une pandémie, qu'est-ce que ça peut faire? Les risques climatiques, c'est très important. Petit à petit, d'essayer. Et on n'a plus le temps d'attendre. Donc, chaque unité est importante, comme dirait Jean Giono. l'homme qui plantait les arbres, bah, tous les jours un petit truc et petit à petit ça grossit.
Ben voilà, excellente conclusion. On en sait en tout cas un petit peu plus sur cette économie circulaire à travers le booster Durée Emploi. Merci à vous, Zélie Perrin, donc chargée de projet booster Durée Emploi, et également à vous, Laetitia Georges. On sent la passion qui vous anime, présidente fondatrice de Contrast. On te donne rendez-vous en tout cas pour la saison 2 et voir où on en est. Est-ce qu'on fait des progrès? Je suis sûr qu'il va y en avoir parce qu'on l'a compris. Merci à vous, Coralie Couvret, qui est directrice du pôle immobilier chez Expertise Galtier Évaluation, la prise de conscience est là.
Tout à fait.
On sait, et il n'y a plus qu'à, mais c'est le plus difficile, accompagner les clients. Et enfin, merci à Baïa de Riche qui a également préparé cette émission avec moi,
merci
responsable
beaucoup
des études immobilières, cellule études et recherches d'expertise Galtier. On se donne rendez-vous pour très prochainement pour un prochain sujet et une prochaine émission spéciale. À très bientôt.
Émission spéciale économie circulaire avec Galtier Evaluation, présentée par Fabrice Coustet.